Je sais que c'est difficile de vous arrêter. On prend un plaisir fou à faire ça. Bon, c'est très difficile de s'arrêter une fois qu'on nous demande. Si je vous ai demandé de parler de tout ce que vous aimez chez cette personne, je pense que la conversation aurait été beaucoup plus courte. Mais parler de tout ce qu'on n'aime pas chez une autre personne, ça y va. Malheureusement pour vous, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, la mauvaise nouvelle, oui, c'est que la vacance est finie. Maintenant, le travail commence, c'est-à-dire la vacance de l'esprit juste se termine. Et maintenant, il va falloir qu'on bascule les choses à un autre niveau. Parce que le cours nous apprend une chose très, très pertinente et très intéressante, mais assez difficile pour notre ego. C'est que si nous n'aimons pas quelque chose chez l'autre personne, nous pouvons être absolument sûrs que c'est parce que nous avons d'abord regardé à l'intérieur et nous n'avons pas aimé cette même chose chez nous. La raison que nous avons problème avec cet aspect de l'autre personne, cet aspect spécifique, c'est parce que quelque part dans notre esprit tordu, nous avons exactement le même comportement, la même façon de faire. On ne le supporte pas. Ce qui nous rend extrêmement sensibles. Parce qu'il y a d'autres qualités. Cette personne n'est pas que ça. Il a d'autres choses. Mais les deux, trois choses qui vous chiffonnent particulièrement, ça vous êtes sensible à ça parce que vous avez exactement ce même comportement. Quelque part, d'une façon ou d'une autre, qui n'est pas pardonné, dont vous n'avez pas encore lâché prise. Vous le gardez comme un aspect de votre identité personnelle. Si vous avez entendu le web conférence l'autre jour, pourquoi est-ce parfois si difficile de pardonner d'autres personnes? J'ai parlé des quatre piliers, des piliers de mon petit soi. Est posé sur ces quatre personnes que je n'arrive pas à pardonner parce qu'ils sont tellement importants, utiles pour moi, pour me garder dans ma petite identité, pour que je ne me lâche pas à ma véritable identité. C'est pareil pour cette personne-là et ses caractéristiques. Ce comportement-là, je refuse de me le pardonner. Parce que si je me le pardonne, je vais tomber automatiquement dans les bras de l'amour. Donc, je garde ça comme une sorte de rancune contre moi-même, mais je ne supporte pas cette rancune. Donc, je l'occulte. Moi, je suis pas du tout comme ça. Non, mais pas du tout. Moi, je suis gentil avec les autres. Je pense toujours aux autres. Je suis jamais égoïste, etc. Ah ben non. Et je dis que peut-être dans votre comportement, c'est juste. Écoutez-moi, et c'est peut-être par rapport à votre comportement. Effectivement, vous n'avez pas le même comportement que l'autre personne, mais par contre, un comportement intérieur, dans votre attitude, dans votre pensée la plus profonde, peut-être quelque part, vous avez exactement cette même attitude qui vous dérange tellement chez l'autre personne, qui vous dérange tant chez l'autre personne. Ce que je vous demande dans cette partie de l'exercice, il y a cette partie plus une autre partie. Et encore une autre partie après. Dans cette partie-là, je vais vous demander de reparler de cette situation et de chercher en vous ce qui peut ressembler à cette personne. Comment vous n'êtes pas si différent que ça? C'est tellement essentiel parce que nous sommes... votre façon de regarder cette personne et votre façon de garder votre individualité différenciée en place. On doit enlever cet aspect de différence. On doit travailler dessus tellement, encore et encore et encore, de résoudre et d'enlever et d'atténuer ce sentiment de différence avec les autres, qu'à la fin, nous voyons que nous sommes exactement comme les autres. Surtout comme les gentilles personnes. Comme ces enfants de... Voilà. Voilà, vous savez exactement ce que je veux dire. J'ai pas besoin d'être grossier. Ne m'obligez pas à être grossier. nous sommes, c'est notre obligation, c'est d'enlever ces différences. Kenneth Wapik nous disait toujours l'unité sur terre, c'est l'absence de différence. Je suis comme l'autre. Ça enlève, ça travaille sur notre, ça travaille sur ma particularité. Ma particularité, mon attachement à ma particularité est l'obstacle numéro un à l'acceptation de la bienveillance, parce que la bienveillance ne connaît pas des individus. Tant que je reste dans mon jus d'individualité, je ne donne pas accueil à la bienveillance. Tant que j'insiste sur ma particularité, je suis comme ça, lui est comme ça, je ferme la porte à la bienveillance. Parce que l'amour ne peut pas distinguer, comme moi je suis en train de distinguer. L'amour ne peut pas le faire. Donc, c'est ma façon de barrer l'entrée de l'amour à mon esprit, chaque fois que j'insiste qu'il y a une différence importante entre moi et une autre personne. Maintenant, si vous arrivez à faire tant mieux, si vous n'arrivez pas à le faire, ça se peut que vous n'avez pas envie, mais je vais pouvoir vous aider. Ça, c'est la deuxième partie de l'exercice. Donc, je vous demande juste d'essayer encore. C'est le début de ce chantier. Le début de ce chantier qui va continuer longtemps. Essayez, et si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. On va continuer encore, on va ouvrir encore une autre partie de ce chantier.
Oui, mais quand on a fait, quand justement on a fait une démarche vers la personne, vers cette personne-là à qui on en veut tellement, et qu'on a essayé de discuter en se disant si on se pardonnait des choses, s'il y a des choses qu'on a mal fait, on s'en excuse et. Toi, ton côté, tu peux aussi pardonner. Si la personne en face, elle nous dit, non, pas pardonner.
Tout d'abord, en fait, très souvent, on ne peut absolument rien faire. Mais le but n'est pas forcément de faire. Le but est votre guérison, à vous-même, retrouver la paix, le cœur et l'amour dans votre cœur. Si on n'a pas forcément besoin de faire quoi que ce soit avec les autres, imaginons que c'est avec un parent mort que j'ai un problème, le plus gros problème, le rancune, grief, colère, blessure, etc. Moi, là, je ne peux même pas m'entretenir avec l'autre. Ça ne va certainement pas vous empêcher de guérir cette blessure. On n'a pas besoin de parler avec l'autre ou d'avoir son acceptation de notre excuse. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. La guérison a lieu en vous. Et par la suite, dans la pensée, il est communiqué à l'autre personne. Parce que nous sommes tous un dans l'esprit. L'autre va commencer à la capter. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche, de lui dire quoi que ce soit. Il va le ressentir quelque part. Il n'a que vous regarder la prochaine fois, et il va soudain sentir, c'est comme si un mur n'est plus là. Il va ressentir un élan, peut-être vous dire bonjour, et il ne sait même pas pourquoi, que son amertume, sa colère est passée. Il va même se dire, mais je ne sais pas pourquoi on s'est vexé comme ça. Et bien voilà, et ça va repartir. Donc je vous laisse creuser un petit peu pour trouver. Mais encore, je ne vous donne pas très très longtemps, juste un peu, parce qu'il y a encore un autre aspect de cet exercice à faire. Donc cherchez en vous ce qui peut ressembler à ce comportement que vous n'aimez, que vous n'avez pas chez l'autre. Est-ce que quelle est votre expérience de cet exercice? Est-ce que vous avez pu trouver un aspect du comportement de l'autre personne reflété dans votre propre comportement?
C'est dur.
Mais tout d'abord, juste pour que j'entende, quels étaient les comportements que vous avez ciblés chez l'autre personne? Juste un petit tour de table comme ça. Quels étaient les comportements négatifs, manipulation
et immoral?
immoral, immoralité,
non-respect, rejet, non-reconnaissance,
domination, envahissement,
jugement,
pouvoir, manque de confiance, énervement, la peur, l'abandon, l'arrogance. D'accord. Est-ce que dans tous ces cas, vous avez pu trouver un reflet de votre propre comportement?
Non, on est choqués même par ça.
Il faut savoir que ça ne me gêne en aucun cas que vous ne trouviez pas. Au contraire. Le but de cet exercice, la première partie de l'exercice, je vous ai demandé de donner le topo de l'autre personne, la personne avec laquelle vous ressentez une grande distance. Donc, je vous ai mis exprès dans une situation où je vous ai demandé d'expliquer la séparation que vous ressentez avec l'autre personne. Ce qu'on fait, on commence à faire maintenant, c'est l'exercice de la bienveillance, l'exercice de l'union pour défaire la séparation. La séparation que je ressens envers la dimension intemporelle de l'unité est reflétée systématiquement dans mes relations avec les autres. Plus spécifiquement dans mes relations avec les personnes avec lesquelles j'ai un problème. Là où je ressens une distance, une séparation. Je ressens un certain niveau de séparation avec tout le monde. Mais des fois, avec les proches, les gens qu'on aime, c'est un peu plus difficile de cerner la nature de cette séparation. Par contre, avec les gens que nous n'aimons pas, normalement, c'est très facile d'identifier la projection de cette séparation qui est en fait la séparation que je ressens envers cette belle unité. Une séparation que je garde, mais que je ne veux pas voir. Je veux que cette séparation soit là parce que je veux continuer à m'enraciner dans ma petite identité. Mais par contre, je ne veux rien savoir de ce que j'ai fait. Donc, je ressens le mal-être. Je ne peux pas garder cette mal-être, je ne peux pas le remettre en question. Il faut que je l'envoie à l'extérieur de moi. Et je vais systématiquement ressentir une séparation à l'extérieur de moi. Une séparation qui est particulièrement puissante avec certaines personnes. Quand je regarde la qualité de ces gens que j'aime le moins, je vais systématiquement retrouver la qualité en moi qui caractérise le plus exactement la nature de la séparation telle que je le conçois. Chacun conçoit la séparation à sa propre façon. Mais il y a un certain nombre de fois, un certain nombre de moyens ou d'aspects de cette séparation. Chacun choisit un petit peu sa sensibilité, sa susceptibilité par rapport à la nature de cette séparation. Il suffit de regarder vers les personnes que vous aimez le moins pour retrouver un aspect de votre relation, j'essaie de m'empêcher de vendre la mèche. Voilà, c'est la deuxième partie. Donc la première partie de l'exercice, c'est de commencer le processus de rapprochement entre vos deux êtres. Vous ne pouvez pas être si différent de l'autre personne. C'est impossible. Parce que nous sommes une unité qui s'est divisé en 7 milliards de différentes personnes. Nous sommes toujours un seul esprit divisé en 7 milliards de parties, contenant exactement le même ADN psychique et spirituel, même si c'est tout comme les doigts sur une main. Ça sera un peu ridicule de dire que l'ADN de mon petit doigt est différent de l'ADN de mon index. L'ADN est pareil, si tu le découpes, tu trouves exactement la même matière. Mais par contre, dans son aspect extérieur, c'est très différent. Même la force, les caractéristiques, etc., du doigt dans l'extérieur est différent. L'intérieur, c'est exactement pareil. c'est comme si mon index et mon petit doigt sont en guerre. Et ils se renvoient la balle en disant, bah, t'as vu comme tu es? T'as vu comme tu es? Non mais la main, la paume dit, non mais vous êtes fou, vous êtes barjant, vous vous êtes vu? L'index et le petit doigt qui se bagarrent entre... Mais pourtant, c'est ce qu'ils essaient de faire. Pourquoi? Ils essaient d'expliquer à la paume, mais tu comprends rien, ce petit là-bas, il est nul. Et le petit qui dit, ah mais l'autre, il est arrogant, perché là, comme il est. Ils essaient d'insister sur les différences au, de regarder, au lieu de regarder. Ils font partie de la paume, de la main. La main n'existe pas sans ces deux parties essentielles. C'est ce que nous essayons de faire chaque fois que nous pointons le doigt à l'autre et nous disons, mais t'as vu comment il est? Nous essayons de nous séparer de l'unité en prétendant que nous pouvons nous différencier de l'autre doigt. C'est ridicule. Pourtant, c'est le jeu auquel chacun, avec lequel chacun va s'amuser à l'infini. Le premier exercice, c'est que l'index et le petit doigt se regardent, ou l'index va regarder le petit doigt et il va dire, est-ce qu'on est si différent que ça? Est-ce qu'il n'a pas un ADN que je partage aussi? Voilà ce que j'ai essayé de vous demander de faire. Est-ce que... Mais cela ne veut pas dire que vous avez pu trouver, parce que des fois, on ne reflète pas cette qualité-là dans nos relations avec les autres. C'est possible. Mais, je reflète cette même caractéristique envers la paume, envers l'unité, envers l'amour, envers l'innocence, envers... Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai demandé de représenter l'unité ou l'amour avec un symbole. Je ne sais pas qui ou ce que vous avez trouvé. Dans le cours, du moins, on utilise Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint et Dieu. C'est-à-dire que l'aspect de cette personne que vous aimez le moins, vous n'incarnez peut-être pas cette caractéristique-là dans vos relations avec d'autres personnes, mais vous l'incarnez certainement dans votre relation avec l'amour, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Ça vous fait plaisir? Normalement, ça ne fait pas trop plaisir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous m'avez donné tout à l'heure? On a parlé d'arrogance, on a parlé de domination, autoritaire, contrôle, manipulation, peur, immoralité, indifférence, non-respect, non-reconnaissance,
perversité.
Mensonge, trahison, on y va. Abandon, maltraitance. Alors, je vous donne 2 minutes de plus pour réfléchir à ça et essayer de voir dans vos petits groupes, à échanger entre vous, pour essayer de voir comment est-ce possible que vous incarnez effectivement cette qualité-là dans votre relation avec l'amour, la source, l'unité, Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, tous ces êtres qui incarnent cette grâce et cet amour et cette bienveillance que vous essayez d'accueillir dans votre vie.
La question c'est pourquoi, j'ai pas compris, comment?
Déjà, comment essayer de petit à petit, on veut prendre conscience petit à petit, comment est-ce possible qu'effectivement j'ai de l'arrogance? Est-ce que j'essaie de les dominer? Est-ce que j'essaie de dominer ces présences? Et vous m'excusez, je vais utiliser Jésus par facilité. D'accord? Jésus qui incarne, on peut imaginer qu'il symbolise, il représente pour nous le summum de la douceur, de la gentillesse, de la bienveillance, du non-jugement, d'une passerelle vers le divin, de l'égalité, une sorte de grand frère tellement merveilleux, tellement doux, tellement intime. Et quelle est ma relation avec lui? Bah, très souvent, c'est manipulation, arrogance, non-respect, non-reconnaissance, abandon, et quoi d'autre ?
Voilà.
Marchandage, voilà, tout à fait, marchandage, manque de confiance. Essayez de voir si ça vous aide dans votre petite discussion en groupe de nommer, donner un nom à cet autre qui est cette source d'amour. Bah, utilisez Jésus, si vous en avez un autre, vous utilisez un autre. Mais essayez de voir, je ne peux pas vous dire assez à quel point cet exercice a été utile pour des étudiants du cours pour réduire le sentiment de séparation avec les autres et pour arrêter net ce manque de bienveillance envers les autres, ce refus de bienveillance envers les autres. J'ai vu ça combien de fois quand quelqu'un finalement a compris stage après stage qu'une femme qui a dit qu'elle détestait sa belle-sœur qui maltraitait ses enfants pour elle, elle ne supportait pas, et quand elle comprenait à quel point c'était possible qu'elle maltraitait Jésus dans son esprit, a traité de la même façon, il y avait la même hargne dans sa relation avec Jésus qui n'avait qu'une envie, c'était de partager son amour avec elle. Et c'était ça qui le bloquait. Parce qu'en fait, pour eux, pour elles, les enfants incarnaient l'amour de Jésus, cette sainteté, cette pureté. Et de les voir maltraités de cette façon, et soudain, elle a vu qu'elle maltraitait l'amour qu'on lui tendait, qu'on lui offrait tous les jours. Et c'était une révolution. Voilà. Et elle ne pouvait plus accuser sa belle-sœur de la même façon. Parce que le problème n'était pas avec sa belle-sœur. Le problème, votre problème n'est pas avec l'autre personne.
C'est vraiment un acte de bienveillance envers soi-même que d'essayer de s'imprégner, d'essayer de s'imprégner de ça. Sans qu'on s'en rende compte, c'est un acte de bienveillance envers l'autre, mais surtout envers soi-même. Ça libère l'unité du jugement. C'est très bon.
Et Patricia et moi, nous essayons de faire ceci tous les jours. Ce n'est pas toujours le plus évident. Parce que ça nous confronte, pour elle c'est plus évident, pour moi non. Nous essayons de...
Que j'enlève mon cilice que je resserre tous les jours. Là.
Le cilice ?
Le cilice, vous savez, la couronne du Christ.
Ah oui.
Ah. C'est un petit peu pour dire que je suis coupable. Donc...
Oui.
Non mais...
Je veux la garder un peu.
Mais tu nous rassures quand même, Bernard. Quand tu dis que c'est un peu... Ah, pour moi c'est pas facile alors. Ça me rassure.
Oui, d'accord.
Mon impact est un peu plus compliqué parce que Jésus, c'était mon frère. Il a été nommé le petit Jésus par mon grand-père quand il est né.
Ah, oui.
Donc c'est un peu compliqué, moi, de me positionner par rapport à ça.
Disons que pour toi, alors, ça peut être un autre symbole. Utiliser le Saint-Esprit ou utiliser Dieu.
Jésus,
c'est
son prénom, c'est vrai.
C'était même pas, c'était Joshua ou Joshua. Joshua, voilà, son vrai. Ou Marie. Marie marche très bien aussi. Marie marche très bien aussi. Donc, et vous imaginez bien, vous imaginez bien que le but de cet exercice, vous imaginez bien que le but, je peux pas lever ma voix toute la journée malheureusement. Vous imaginez bien que le but de l'exercice n'est pas qu'on s'accable de culpabilité pour notre façon de mener notre relation de haine avec Jésus ou avec cette autre présence. Cette autre présence nous adore, d'accord ? Et il rigole à nos efforts de l'exclure. Il rigole, d'accord ? Je veux dire, il sourit constamment. Parce qu'on est en train de feinter, on est en train de boxer un fantôme, une image. D'accord. Et il est là, une majestueuse présence, là, devant nous tout le temps. Il voit nos tentatives, c'est comme si on a des petits cailloux. On lance à l'océan, prends ça. Et l'océan, il y voit, ploup, 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 ploup. Et c'est tout, et c'est parti, c'est disparu. D'accord. Donc il n'y a aucune culpabilité, aucune raison ici. Il n'y a qu'une vague de bienveillance derrière.
Mais c'est des conditionnements d'éducation qui sont très forts. C'est ça qui est difficile.
En réalité,
Il y a eu ça, c'est pas, enfin, je veux dire,
la question c'est
qui fait ça.
La question maintenant c'est pourquoi est-ce qu'on garde ces conditionnements quand on le voit clairement,
oui, bien sûr.
Et sous-jacent on a des raisons inconscientes. Voilà. Maintenant, on veut devenir conscient de ces raisons et on va dire, enfin, c'est ridicule. Moi, je ne veux plus garder ces soi-disant bonnes raisons.
Et ces connaissances-là aussi arrivent dans la vie des enfants, des jeunes, parce qu'on voit des jeunes maintenant qui sont vraiment ouverts, 20 ans, 30 ans, ils ont des connaissances et tout. Chose que tout, enfin, je vais parler pour moi, je boucle une génération, là. Les parents n'avaient même pas conscience. Je me dis, oh, j'ai chopé les trucs il y a 20 ans, j'aurais très bien pu passer à côté. C'est encore lourd pour nos générations. Alors que les jeunes qui vont arriver, moi je veux bien réembobiner les années.
Tu dis que c'est plus facile pour les jeunes?
Ah ben, disons qu'ils auront accès aux connaissances. Le monde a changé.
Je ne suis pas totalement d'accord.
Certains non.
Oui.
Bien sûr.
Je ne sais pas. Je pense que
Il y a plein de jeunes qui sont.
Est-ce que je vous laisse 2 minutes pour boucler cet exercice, pour essayer de trouver, d'accord, discuter entre vous. Souvenez-vous. Le but de cet exercice n'est pas soudain que le ciel s'ouvre. C'est une sensibilisation. On voudrait bien. Pour Françoise, oui. Le but, c'est une sensibilisation, une prise de conscience. Au moment que vous souhaitez, cette porte va s'ouvrir. Mais ne vous forcez pas. Ne prenez pas une baramine pour ouvrir cette porte. S'il vous plaît. N'y allez pas avec une massette et un ciseau en bois et tout le reste. Tout en douceur. Tout en douceur. Allez-y. Si vous avez terminé l'exercice, dites-moi, est-ce que vous avez pu cerner, est-ce que vous avez pu voir, ressentir comment vous intégrez un aspect de ce défaut de cette personne dans votre communication et votre relation avec cette présence d'unité ou d'amour, ou peut-être c'était pas évident, d'accord.
Alors moi, ce n'est que mon idée. Quand j'attaque l'autre, j'ai l'impression d'attaquer Dieu. Alors
en fait, oui, il y a tout à fait un aspect là, inconsciemment. Il y a une reproche envers Dieu. Il y a une reproche. On reproche beaucoup de choses à Dieu. Le cours le dit assez clairement. Nous avons demandé une simple faveur, simple toute petite faveur à Dieu. On voulait juste de la particularité, de la dualité au sein de l'unité. Et vous pensez qu'il a pu nous le donner? Non. Parce qu'il n'entendait même pas une voix séparée. Il ne pouvait pas le donner parce qu'il ne le comprenait pas, la demande. Et le cours nous dit, nous avons fait de Dieu un père non aimant, un père juge, un père vengeur. En fait, un père assassin. Nous accusons Dieu de beaucoup de choses. D'égoïsme, de vouloir toute l'autorité et tout le pouvoir pour lui. Ça, c'est le faux Dieu que nous avons imaginé. Nous sommes accusés aussi des pires crimes par rapport à notre désir de nous séparer de lui. Nous sommes accusés d'être des êtres abominables, exécrables, le plus grand égoïsme aussi, capables de vouloir détruire l'unité et la perfection pour ériger notre propre univers, notre propre domaine, ma propre identité à sa place. Nous nous accusons par la suite de déicide, mais avec, c'est-à-dire d'avoir tué Dieu, mais un Dieu quelque part bizarrement qui s'est ressuscité de ses cendres et maintenant une sorte de Dieu enragé. Et oui, il est présent quelque part dans mon esprit, et chaque fois que je m'adresse à une autre personne, je suis hanté par cette image de ce que je pense avoir fait, un Dieu imaginaire. Et oui, je m'entretiens pendant chacune de mes relations avec une représentation de Dieu ou de Jésus selon votre spiritualité. C'est un peu ça que tu voulais dire?
Oui.
Et donc, c'est sur cette idée-là que le pardon est bâti et est fondé. Le pardon nous demande de regarder notre relation avec l'autre, que nous pensons dans un premier temps est une relation avec l'autre personne. Le cours nous apprend que notre relation n'est pas vraiment avec l'autre. Ça semble dans un premier temps avec l'autre. En réalité, c'est notre relation avec nous et notre relation avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on ramène la conscience vers la source et vers l'origine. On utilise tout ce qui semble le plus extérieur pour venir à l'intérieur, pour revenir vers l'unité. Parce que nous avons, au départ, notre chemin, c'était l'inverse. C'était l'unité, soit extérieur. Maintenant, on utilise toute notre attention tous les jours est accaparée par l'extérieur. Donc, c'est là où on commence. Cette spiritualité sur la non-dualité n'est pas basée sur des méditations profondes sur l'unité et la non-dualité. Il y en a d'autres qui le sont. Il y a des leçons qui nous demandent de faire cela. C'est très très belles leçons. Mais le travail principal de cette méthode nous demande au contraire de regarder à l'extérieur et c'est notre perception de l'extérieur qui va nous emmener à voir nos obstacles, tous nos points d'ancrage dans la dualité. Ce que les méditations profondes sur la nature de l'unité ne peuvent pas forcément nous aider à défaire ces points d'ancrage, ces résistances. C'est pour ça que le cours n'est pas forcément meilleur que d'autres chemins, mais il se dit plus rapide parce qu'il nous demande de regarder spécifiquement à tout ce que nous utilisons pour nous garder dans la dualité. Ça ne fait pas plaisir, je suis bien d'accord, mais c'est une sorte de manipulation ostéopathique, c'est-à-dire ça fait une sorte de craquement qui n'est pas forcément agréable au début, pendant l'exercice, mais après il y a un soulagement absolument exceptionnel. Et c'est un petit peu par peur de ce craquement qu'on hésite d'aller chez l'ostéopathe, ce qui est notre Jésus intérieur, le Saint-Esprit intérieur, et notre ostéopathe, il nous dit « Venez chez moi », et on hésite, « J'aime pas entendre craquer. »« Oui, mais tu vas voir, après ça fait vachement de bien. » Donc ça fait pas plaisir au début d'apprendre comment je me sers des autres pour projeter ma guerre avec Dieu, avec Jésus, avec l'amour. Pourquoi faire souffrir des autres de ma guerre, mon conflit avec l'amour? Écoute, c'est comme ça. C'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, au moins, on est au courant de ce qu'on fait et on peut ramener ça, on peut se l'approprier. On veut devenir responsable, reprendre responsabilité pour notre expérience des autres, pour l'agacement, la contrariété, le dérangement et dire... Il se passe quelque chose en moi qui fait que j'ai cette expérience de l'autre. Moi. Je suis responsable. Il y a quelque chose en moi qui est en train de choisir cette expérience. On a encore beaucoup de choses à se dire, mais je pense qu'il vaut mieux quand même qu'on s'offre une petite pause. D'accord? C'est déjà pas mal. Donc, mais on va revenir sur ce qu'on vient de faire après un quart d'heure.